Robert Ouimet, bonjour.
Bonjour.
Robert Ouimet, dans un premier entretien, nous avons tenté de connaître davantage l'homme que vous êtes. Maintenant, on va tenter de connaître peut-être un peu plus votre entreprise, qu'est-ce que vous en avez fait. Mais avant, j'aimerais revenir dans votre vie personnelle. Mère Teresa vous a établi un ordre de priorité et au premier rang, c'était votre femme. Vous avez beaucoup mentionné comment vous, dans la vie, vous avez été chanceux et que les choses sont bien arrivées et que c'est une chance.
Pas chanceux, privilégié.
Privilégié, oui. Mm-hmm. Bien de me corriger.
Non,
la rencontre de votre femme, c'est aussi un événement privilégié. Vous auriez pu rencontrer votre femme aux études au HEC. Vous auriez pu la rencontrer quelque part à Montréal. Vous êtes allé la prendre bien loin.
Ça aussi, c'est un privilège. Hein? J'ai, comme beaucoup d'hommes, fréquenté plusieurs femmes avant de choisir. Puis il n'y avait pas pire là-dedans. Et puis, j'ai rencontré ma flamande au Brésil, à un congrès mondial des patrons catholiques. Et son papa était malade, puis tant mieux, parce que c'est elle qui l'a remplacé. Alors, oui, Myriam, 45 ans plus tard, a vraiment été choisie par le bon Dieu, par le Christ. Mais évidemment, je l'ai choisie aussi. Alors, je m'aperçois qu'en rétrospective, elle a une tête forte, j'avais besoin de ça. Elle a une vie spirituelle intérieure, j'avais besoin de ça. Son papa était chef d'entreprise dans les textiles. Ça, je trouvais ça très important parce que là, elle comprendrait historiquement les absences de son mari. Et ensuite, je savais qu'elle voulait avoir des enfants. Moi, j'en voulais 12. On s'est mariés tard, donc on en a eu 4. Puis, ainsi de suite. Alors, ça a été un don extraordinaire de choisir la bonne personne. Mais je raconte dans le livre la vérité. Tout ce qui est dans le livre, c'est la vérité. Puis, bêtement dit, souvent, puis c'est parfait, c'est clair. Ça a été à l'âge de 12, 14, 13 ans, pas plus tard que ça. J'ai commencé tous les soirs à dire un Ave Maria que j'ai rarement manqué pour demander à la Vierge, et c'est toi qui vas choisir la mère de mes enfants, puis mon épouse, c'est avec toi. Ben, la Vierge a pris son temps parce que c'est arrivé, j'avais 31 ans. Mais elle l'a fait. Puis ça se donne que Myriam s'appelle Myriam.
Aussi. Elle était fille de chef d'entreprise,
oui.
Dont une entreprise dont elle a hérité, mais enfin, elle remplaçait son père au besoin et elle l'a peut-être remplacé après.
Elle n'a pas travaillé dans les entreprises. Elle aidait son père, mais l'entreprise a été transmise à un des enfants et Myriam avait une sœur et 3 frères. Et ça a été transmis aux autres enfants, à un des fils.
Donc, voilà. Elle n'a pas eu à abandonner l'entreprise familiale de
non,
son côté
tout.
Pour se joindre à la vôtre?
Non. Quand elle a fini à Louvain en business, qui était une des premières femmes qui allait à Louvain en business, ensuite, elle a fait application à aujourd'hui ce qu'on appelle la communauté européenne. Dans ce temps-là, c'était le marché commun. Elle a eu une bonne job dès le début, dans un poste de responsabilité. Puis au moment de notre mariage, elle a tout quitté. Puis on a eu 4 enfants en 5 ans.
Vous êtes, vous avez été président. Maintenant, c'est un de vos fils qui préside cette entreprise, Ouimet Cordon Bleu Tomasso. C'est l'entreprise que votre père avait mis sur pied, que vous avez continué de développer par rapport à celle de votre père. Vous avez un projet d'inscrit dans cette entreprise. C'est un document même dans lequel votre projet est inscrit très précisément. C'est courant dans le monde de l'entreprise d'avoir un projet aussi spécifique et établi un peu comme l'état de la loi?
Après avoir visité plus de 45 business schools de par le monde, il n'y en a aucune de ces organisations qui m'a dit ou qui nous a dit qu'elle connaissait un modèle de management scientifique autant articulé et visant à poursuivre un équilibre entre l'importance de l'humain, la priorité de l'humain, des humains dans l'entreprise, avec la priorité d'être hautement efficace compétitivement. Alors, je ne peux pas vous dire d'autre chose que ça. C'est juste ça.
Est-ce qu'il y a une...
Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de par le monde, inclus au Québec, au Canada, 10, 20, 40 entreprises qui, ou peut-être 400, qui ont vraiment, qui font un effort avec des beaux résultats d'être juste et équitable avec leur personnel et d'être hautement concurrentiel. Mais à ce qu'on me dit dans les business schools jusqu'à date, il n'y a aucun modèle articulé. Ce qu'on nous dit, c'est ceci. On ne connaît aucun modèle qui a été expérimenté pendant autant d'années sans interruption et lequel modèle comporte autant de différentes activités en milieu de travail dans le quotidien de la gestion, qui évidemment donne les résultats qu'on connaît. Alors, c'est ça.
Dans votre projet, il est question des employés et il y est question de la rentabilité de l'entreprise.
Il est question du personnel.
Personnel, d'accord.
On essaie de pas employer de nouveaux employés.
OK. Donc, de ces deux éléments-là, est-ce que les deux sont traités à égalité?
Jamais.
On surveille toujours les deux ou s'il y a une priorité?
On surveille toujours les deux, puis on essaie d'attacher de l'importance toujours aux deux, et puis on le fait à peu près jamais. Quand l'économie va mal, comme c'est dans le moment, dans beaucoup d'entreprises, là, on attache encore l'importance à l'humain, mais on réduit de 80% l'importance à l'humain. Et on s'en va du côté de la, non seulement de la survie, mais de redécouvrir un mode de gestion et d'efficacité concurrentielle économique qui va permettre aux humains qui sont là et à leur famille d'être en sécurité, pas dans le moment, mais dans 2 ans, 3 ans, puis après ça va durer 4-5 ans, puis après ça, il y a une grande crise qui va arriver. Alors, on se promène toujours entre les efforts qu'on fait pour aimer plus et épanouir les humains en milieu de travail, et puis en même temps d'être hautement discipliné dans le domaine de la gestion rigoureuse de l'économique.
Vous parlez beaucoup de l'humain. En parlant justement des gens qui travaillent chez vous, est-ce que on a besoin d'être croyant pour travailler chez Wimet?
La réponse est non. Ce qu'il faut pour travailler chez nous, c'est d'avoir du cœur. Il y a 3 conditions pour travailler chez nous. La première, c'est d'être compétent. Puis compétent, pas à peu près. D'avoir l'expérience pour la job qu'on offre. Puis si on fouille pour savoir, puis on se trompe, mais on se trompe moins qu'avant. Après ça, ce qu'on cherche, puis on le cherche vicieusement, c'est est-ce que le candidat finaliste là, qu'on a, ou les 2 candidats finalistes, est-ce qu'ils ont un niveau d'authenticité, d'honnêteté suffisamment élevé? Puis là, on prend des moyens pour aller fouiller là-dedans. Puis le 3e volet, qui est en fait le sommet, c'est que particulièrement lorsqu'on choisit un manager, ou encore plus particulièrement quand on choisit un membre du conseil d'administration, il faut que la personne, et là, permettez-moi d'être vulgaire, ça va avoir l'avantage d'être clair, il faut que la personne qu'on regarde comme candidat finaliste, ça soit pas une gomme-ballonne puis un orgueilleux jour et nuit. Il faut que ce soit une personne humble. Humble qui se prend pas pour un autre, mais qui en même temps est brillant. Puis vous voyez qu'être brillant, puis être humble, c'est en contradiction tout le temps. Mais on trouve ça. Il y en a dans notre CA puis dans le management qui sont comme ça.
Vous privilégiez, on l'a vu.
Mais ça, c'est rare, tu sais.
Oui, sûrement.
L'authenticité puis l'humilité, là, c'est pas rare, là, c'est super rare.
Ouais.
Je dis pas que l'humilité est super rare. Je dis que on connaît pas une entreprise qui insiste autant que ça sur l'authenticité puis l'humilité.
D'accord.
Puis il faut que ça commence par en haut. Hein. Si la personne qui fait l'interview n'a pas un niveau d'authenticité puis d'humilité élevé, hein, ça ne fonctionnera pas l'affaire, parce que le candidat va s'en apercevoir.
Vos valeurs de prière et de silence, vous les proposez en laissant aller les choses que les gens adhèrent ou n'adhèrent pas, ou si vous essayez de convaincre, de les amener?
Ce qu'on veut faire, ce qu'on fait, ce qu'on réussit à faire est constamment imparfait. Parce qu'on est humain, en commençant par moi. Cependant, on fait un effort constant pour qu'il y ait une liberté, pas totale, une liberté individuelle profonde des choix. c'est pas un free-for-all chez nous. On est structuré pas à peu près. On a de l'ordre. On a de l'ordre. Autant dans l'économique que dans la gestion des humains, même si on fait des erreurs tout le temps. Alors, de toute façon, comme je l'ai décrit dans 1500 pages dans la thèse de doctorat, ça a juste été le premier 15-20 ans qui a été dur dans ce projet-là. Aujourd'hui, notre réputation au Canada, d'une mer à l'autre, on est connu. On est connu, on est singulier, pas à peu près, puis tout le monde sait que le spirituel puis le religieux, c'est dans la place. Et puis là, le grand avantage aujourd'hui, qui a été super difficile pendant le premier 15-20 ans, c'est que là, les gens qui font application chez nous, déjà, ils savent qu'ils entrent dans une gang qui est un peu singulière. Mm-hmm. Déjà, il y a, ce qui est magnifique au plan de la liberté, une liberté qui s'exerce. Ben, ça, ils sont très spéciaux, cette gang-là, là, ça m'intéresse pas. Puis voilà, yeah, parfait. D'abord, nous autres, ça nous sauve du temps. Puis c'est ça. Et aussi, ce qu'on remarque aussi, c'est que, mettons, depuis 5 ans, je pense que ça serait vrai de dire que notre modèle de management, ou ce qu'on essaie de vivre, est de mieux en mieux connu à l'extérieur. Et là, de plus en plus, nous arrivent des candidats pour des postes importants qui sont écœurés de ce qu'ils vivent ailleurs. Le mot écœuré est un peu fort, il est un peu vulgaire sur les bords, mais
ils sont
pas heureux, tu sais. Puis il y en a là-dedans qui ont fait beaucoup d'argent. Puis que là, qui découvre, comme moi j'ai découvert, ben, qu'il n'y a pas rien que ça dans la vie, tu sais, puis comme, bon, tout ça. Puis là, ils découvrent ce qu'on essaie de vivre, puis qu'on vit très mal, c'est de s'aimer plus l'année prochaine que l'année dernière, en gagnant notre vie, puis en maintenant et en continuant que nos concurrents aient peur de nous autres. C'est ça qu'on veut. D'une part, on veut s'aimer plus l'année prochaine que l'année dernière, puis d'autre part, on veut que l'année prochaine, nos concurrents aient encore plus peur de nous autres qui ont peur l'année dernière.
C'est intéressant, vous abordez la question de la concurrence. Vous devez vous situer aussi, parce que c'est un milieu, l'alimentation est un milieu éminemment concurrentiel, vous devez vous situer par rapport à la concurrence. Vous devez être meilleur que votre concurrence. Vous devez être tellement meilleur que vous allez l'éliminer, ou comment vous vous situez par rapport à la notion de concurrence?
Il faut être meilleur. Il faut. Je suis, je pense que beaucoup chez nous sont convaincus que Dieu veut. Hey, le soir, au lieu de se fermer les yeux puis d'être dans un bar, quand on va dans la forêt puis qu'on ouvre ses yeux puis qu'on regarde le ciel puis qu'il n'y a pas de nuages, ben on regarde ça puis c'est pas mal bien organisé, cette affaire-là.
Oui, ça se frappe pas, ça tourne, ça se frappe pas.
Et puis, c'est pas du hasard. Et puis, il y a de l'ordre. Heureusement pour nous autres, parce qu'il n'y avait pas de l'ordre, les étoiles se promenaient un peu trop près de nous autres, on aurait des problèmes. Et il y a de l'ordre. Alors, va conquérir l'univers et soumets-le. C'est comme ça que la Genèse commence. Et c'est pas fonde des monastères, puis va prier tout le temps, puis que tous les humains fassent ça, puis on va t'envoyer du pain, du beurre, de la mayonnaise, puis des confitures. Non, non. Bon, va conquérir. Ah, c'est ça. C'est ça. Mais en même temps, aime. L'épître d'il n'y a pas longtemps de Paul, là, c'est toute la loi se résume dans aime ton prochain comme toi-même. Et aime. Mais ce qu'il y a de bien dans la concurrence, c'est que en le vivant violemment comme on le fait actuellement, nous autres, avec une rigueur scientifique pas à peu près, c'est que nos consommateurs sont également humains. C'est pas des robots. Ils sont pas rien que là pour nous faire vivre. Hein? Puis on va en avoir plus qu'on a depuis 5 ans, puis on va en avoir plus dans 5 ans, puis dans 20 ans, puis on va durer encore 75 ans, j'en suis à peu près sûr. Mais les consommateurs sont humains. Les produits, on peut les préparer avec amour, puis avec une rigueur scientifique d'être plus efficace que Nestlé puis que les autres. Hein? C'est possible. Puis à ce moment-là, on contribue au bonheur des humains avec un produit à un prix équitable, avec une qualité possiblement égale ou supérieure, mais la sacrée qualité, ça se gagne pas tout seul. C'est pas en rentrant, moi, dans un monastère pendant 2 semaines, ça change pas la qualité de nos produits, la qualité de manger. Hein.
Donc, la dimension face à la concurrence, la dimension très importante n'est pas que de viser l'autre compagnie, c'est aussi de viser dans la qualité de ce que vous faites.
Les deux. Puis si on peut acheter tous nos concurrents, on va le faire. Oui. Et de toute façon, le libre marché permet très rarement le monopole. Heureusement d'ailleurs. Puis heureusement, il y a beaucoup de gouvernements, dont ceux des pays de l'Ouest, que le monopole, ils ont des lois, puis ont raison. Ont raison. Mais le système de libre marché, c'est Jean-Paul II l'a écrit, puis je crois que Léon XIII l'a écrit dans des mots différents. C'est dans l'histoire de l'humanité, le libre marché est de loin le meilleur système qui est capable d'apporter une croissance de richesse matérielle la plus élevée dans le moins de temps possible. Mais est-ce qu'il fonctionne merveilleusement aujourd'hui? La réponse est non. Mais il ne faudrait pas le domper parce qu'il y a des grandes faiblesses. Il faudrait travailler sur les faiblesses, puis là, on commence à le faire. Est-ce qu'on va le faire assez vite? Je ne sais pas. Mais c'est un projet d'amour, tout ça. Là. Perdons pas notre temps. Là. C'est un projet d'amour. Et puis moi, je sens que Jésus est un grand chef d'entreprise. Puis il aime ça que ça soit efficace. Puis il aime ça que ses bilans donnent des bons résultats par rapport à ses concurrents. Mais il aime ça aussi. Alors, c'est pour ça qu'on a deux enquêtes scientifiques. Puis il y en a une à tous les deux ans sur le climat organisationnel, puis il y en a une sur les valeurs dans le milieu de travail, là, qui mesure les efficacités ou les inefficacités du modèle de management en question. Alors donc, c'est une évaluation périodique à tous les deux ans du bien-être des humains, puis il y a des hauts et des bas, et du bien-être de l'efficacité économique concurrentielle, et il y a des hauts et des bas. Si on n'a pas dans le milieu de travail, particulièrement au haut de l'entreprise, un noyau spirituel croyant, hein, ça ne fonctionnera pas, ce modèle-là. Ça fonctionne. Je défie n'importe qui.
Vous avez mentionné, Robert Ouimet, que comment votre entreprise...
C'est pas la mienne.
Avec le temps, l'entreprise que vous avez dirigée, que votre fils dirige maintenant, comment cette entreprise-là avait... sa réputation était faite et que de plus en plus des gens venaient chez vous, vous aviez moins de triage à faire par rapport aux valeurs.
Un peu moins. Par rapport aux valeurs, oui, tout à fait.
Oui. Par rapport à ces valeurs que vous préconisez. Oui. Dans le concret, parce que je voudrais arriver à des gestes très particuliers. Bon, vous avez, dans chacune de vos usines, vous avez un lieu de silence. Donc, c'est une invitation aux gens qui veulent s'en servir, de se recueillir. Mais vous faites des propositions. Il y a dans votre projet d'entreprise, il y a des propositions concrètes qui sont faites aux employés, probablement en toute liberté aussi, mais ils ont des gestes à poser. Il y a des rencontres, il y a des réunions où on discute, où on fait des retours.
Oui, absolument. D'ailleurs, c'est tout décrit dans le modèle. Cependant, quand vous disiez, vous avez fait allusion à la liberté, là. J'en parle dans le doctorat, très clairement. Ça fait maintenant entre 40 et 50 ans qu'on joue là-dedans. T'sais. On a été fondés 75 ans. Le fondateur avait les valeurs fondatrices qu'on a encore aujourd'hui. Et puis après ça, tranquillement, commençait à s'articuler un ensemble d'activités en milieu de travail. Et à mesure que se sont ajoutées des activités périphériques de plus en plus à haut contenu spirituel et même religieux, là, la Charte des droits de l'homme au Canada, elle existe. Et c'est l'une des plus rigoureuses sur la planète. Tant mieux. Et je me disais toujours, et dans la haute direction, on va pourtant se faire attaquer à cause de la liberté, tu sais. Alors, ça, c'est détaillé dans les documents qui ont été écrits. Tu sais, nous avions beau répéter la salle de silence, elle n'est pas là pour avoir une promotion. Mais ça a pris peut-être 10-12 ans avant que quelqu'un qui n'allait jamais à une promotion, puis quelqu'un qui allait à tous les jours n'a pas eu, avant que ça se sache. Hein? Je n'ai jamais été poursuivi en cours de justice pour la Charte des droits de l'homme. Ça aurait pu arriver après deux semaines, puis ça aurait pu arriver... Là, il y a peu de chances que ça arrive. Là, c'est tellement... Parce que la liberté humaine, c'est très difficile de vivre ça, surtout quand on s'aventure dans le domaine spirituel et religieux. On a beau dire, vas-y pas dans la salle de silence, ça change rien à ta promotion ou à ta démotion. Ils croient pas, puis ils ont raison. Aujourd'hui, ils croient. Aujourd'hui, ils croient. Quand on dit, viens pas entendre un témoignage, dans le milieu de travail, on en a deux par année, aujourd'hui, ils croient. Tu viens pas, t'es payé pareil, puis tu viens, t'es payé pareil. Puis là, ça changera pas ton CV pour avoir un job plus payant. Ainsi de suite. Des moments de silence, de plus en plus, toutes les réunions commencent par un moment de 15, 40, 62, puis là, si on vit des grandes tensions, des fois, ça se rend quasiment à deux minutes, où on se ferme le casseau, puis on sait que dans le silence, C'est là que Dieu nous rejoint, comme dit Mother Teresa. C'est la grande amie de Dieu, c'est le silence, c'est pas le bruit. Bon, c'est ça. Mais ça a été dur, hein? Je recommencerai pas. Ça a été dur, vous pouvez pas le savoir, pas juste pour moi.
Parce qu'on vous a suspecté?
Oui, puis il avait raison. Parce que ça aurait pu être du tripotage, du tatouinage, ça aurait pu être de vouloir convertir. Tu sais, on est les meilleurs, puis j'ai la foi, bon Dieu, puis tout le monde va faire pareil, ce qui n'est pas le cas pantoute. Tu sais, j'ai la foi, c'est vrai, mais c'est pas bon pour tout le monde, c'est pas. En tout cas, bon. Mais il faut le vivre. Hein? Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'on l'a vécu de peine et de misère, de façon constamment imparfaite, puis on n'a pas été attaqué en justice encore. Hein? Mais ça aurait pu arriver. Alors, ce qui est très difficile, et c'est pour ça que je comprends tellement mes confrères dirigeants, eh? Entre passer de dire « je le vis moi-même », ce qui est déjà énorme, et « je veux le vivre 8 jours par semaine, puis 27 heures par jour », pas juste à l'église le dimanche pour ceux qui y vont encore, puis au travail après ça, c'est un autre chaîne de valeur, non, il y en a qui le font ça. Mais l'autre étape, c'est vraiment l'autre étape du riche, là, tu sais, c'est de le vivre, mais de trouver tranquillement des gens qui veulent vivre ça. Là, ça part en haut de la pyramide. Ça prend 5 ans pour ramasser 2, 3, 4 personnes, etc., etc.
J'ai une question.
Là, c'est dur. Parce que là, on se compromet publiquement. Mais c'est bon pour l'orgueil. Parce que des fois, on se trompe. Là, l'orgueil ratatine. Ça, c'est parfait. Hein?
J'ai une question pernicieuse pour vous, Robert Lemay.
J'aime ça, ces questions-là.
Est-ce qu'il y a des syndicats dans vos entreprises?
Oui, on a de la FTQ dans une usine importante, puis dans l'autre importante que mon père a fondée depuis 75 ans et demi, il n'y a jamais eu de syndicat. Puis c'est ça à tous les 4-5 ans, puis c'est parfait, ça nous garde réveillés. Alors, puis ça, je trouve ça merveilleux qu'on ait les deux formes. Et avec le syndicat actuel, il y a vraiment de part et d'autre une perception d'honnêteté et d'intégrité. Et quand on leur dit là, ce que vous demandez, là, ça passera jamais. Ils nous croient. Puis quand ils disent, bien, telle affaire, on en aurait besoin, puis vraiment, c'est important, puis on veut l'avoir. Puis à part de ça, il y a une humanité. C'est ce qu'on perçoit, en tout cas. Moi, je ne fais pas affaire avec eux, parce que ce n'est plus mon rôle. Mais il y a vraiment... Il y a une confiance. Puis ce qui ne veut pas dire qu'on ne s'argumente pas, puis tout ça, il faut s'argumenter.
Ouais. Ouais. Vous avez fait mention, Robert Wilmette, comment ça avait été difficile et que vous ne recommenceriez pas tellement. Ah, il y a eu des moments qui ont été très durs. Ouais. Parmi les souffrances que vous vivez dans cette volonté d'avoir une entreprise qui est celle que vous avez, c'est le manque d'appui de la hiérarchie de l'Église?
Non, c'est pas ça en priorité. Si c'était ça, je le dirais. C'est pas ma perception. C'est vraiment... En voulant vivre cela avec le plus de bonne foi dans un climat de liberté, puis que là, qu'on s'aperçoit qu'il y a tellement de résistance et de crainte. Et puis, par contre, là, je regarde ça avec un recul de l'âge que j'ai, puis là, je me dis, c'était parfait que ça arrive comme ça, parce que l'orgueil n'a pas grand temps pour gonfler, tu sais. Mais les gens avaient raison de craindre. Les gens avaient raison d'être sceptiques. Parce que ça aurait pu être d'autres choses. Puis je vous dis pas du tout que c'est merveilleux, puis c'est parfait, ce qu'on vit. C'est merveilleux, mais c'est absolument imparfait.
Mais les moines vous ont cru plus vite que la hiérarchie d'Église.
Les moines ont cru plus vite, je crois que c'est pas ça qui est exactement qui s'est passé. Ce que eux savaient, ce que les à Saint-Benoît-du-Lac savent, ce que les bénédictines à Saint-Eustache savent, ce que l'Alliance à Trois-Rivières sait, ce que les contemplatives de Mère Teresa à Calcutta où elle m'a amené, puis c'est là qu'on a fait le contrat écrit, qu'on se renouvelle à tous les 2 ans maintenant, par écrit, c'est vraiment... Nous voulons, il y a une microscopique organisation cachée dans l'Amérique du Nord, dans le coin Est, en haut, là, qui veut vivre ora et labora au quotidien. Prier son travail. C'est ça la devise de Saint-Benoît, puis de tous les monastères dans le monde. Et là, ils savaient. Puis là, on leur a dit, priez avec nous. On n'a pas dit priez pour nous. Priez avec nous, puis on va prier avec vous. C'est ça qui marche. Ça fonctionne. Puis là, avec Mother Teresa, ça fait au moins 20 ans que ça marche. Oui. Hein? À tous les mois, à l'Eucharistie, on est unis ensemble. Puis J'ai jamais demandé, prié pour que le projet marche. D'ailleurs, si j'avais demandé ça, ça n'aurait pas marché. Ça aurait été mieux comme ça. Prier pour que demain, on soit plus à la disposition du Seigneur. Mother Teresa, pray so that us in the business. Puis là, puis ce qu'elle a trouvé fascinant, c'est que je lui ai dit, on va faire la même chose. On va prier pour que votre contemplative soit plus demain à disposition de Jésus qui est. Il faut tuer de fou. Hein?
Vous priez beaucoup, Robert Ouimet, à tel point que votre femme vous l'a peut-être à un moment donné reproché. Vous y mettiez plus de temps que vous en consacriez à la vie familiale. Mais passons. À quoi ressemble?
Non, c'est vrai.
Oui,
c'est vrai. J'étais absent beaucoup de la maison, souvent pour des bonnes raisons, puis d'autres fois pour des moins bonnes.
Et parfois, vous invoquiez la prière.
Non, je priais. J'ai toujours prié. Aujourd'hui, chaque instant de mon vécu, je le veux. Une prière. Puis pour moi, une prière, c'est une conversation avec mon meilleur ami. Alors je veux maintenant, Jésus, si tu le permets, vivre chaque instant de ma vie entre l'instant présent et l'éternité avec toi. Puis si tu veux en parler à ton Père, à l'Esprit, j'aimerais ça si je pouvais vivre chaque instant avec vous trois. Puis je vous demande rien. Je vais faire mon best, je vais le faire avec vous trois. Même mes péchés, je vais le faire avec vous trois. Je vais faire mon best pour les guérir. Je vous demande pas de les guérir. Ça, c'est l'épine de Paul, tu sais. Je vous demande pas. Faites ce que vous voulez. Guérissez ce que vous voulez. J'ai confiance en vous. Quand on dit, moi, le centurion, c'est un de mes grands chums, hein, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je suis guéri. Ben, là, avant de recevoir l'Eucharistie ce matin, comme depuis plusieurs années, « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. » Puis là, je regarde la photo de Capharnaüm, puis c'était probablement là que ça s'est passé. « Je ne suis pas digne de te recevoir. » Dis seulement une parole, et pas « Je serai guéri. » Pas au futur. « Je suis guéri. » De ce que tu veux. Quand tu veux. Puis ça fonctionne. Puis la plupart du temps, à 90% du temps, il guérit quelque chose, puis c'est jamais ce que moi... je lui aurais suggéré. De toute façon, il sait ce que moi je pense, je n'ai pas besoin de lui dire.
Robert Ouimet, j'allais vous poser la question, à quoi ressemble votre prière, mais vous venez d'y répondre, vous m'avez devancé.
C'est constant.
Je vous remercie beaucoup.
C'est merveilleux, d'ailleurs.
Je vous remercie beaucoup de m'avoir accueilli aujourd'hui.
Ben, je vous remercie beaucoup d'être venu au Québec, puis je trouve le titre de votre programme, La Galilée, ben, je suis allé 16 fois, alors merci beaucoup, ça me fait beaucoup de bien.